Pinocchio par Carlo Collodi, quatrième cassette, première face, page 153. Après avoir marché pendant une demi-heure, Pinocchio arriva à un petit pays appelé le pays des abeilles laborieuses. Les rues fourmillaient de gens qui couraient ça et là à leurs affaires. Tout le monde avait quelque chose à faire. On n'eût trouvé ni un oisif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait rien, ni un vagabond, même en cherchant avec une lanterne. « J'ai compris, dit aussitôt ce paresseux de Pinocchio, ce pays n'est pas fait pour moi, je ne suis pas né pour travailler. » Mais la faim le tourmentait, car il y avait plus de 24 heures qu'il n'avait rien mangé, pas même une maigre portion de veste. Que faire? Il ne lui restait que deux moyens de calmer sa faim. Ou demander un peu de travail, ou mendier, demander la charité d'un sou ou d'un morceau de pain. Il avait honte de mendier car son papa lui avait dit que seuls les vieillards et les infirmes ont le droit de demander l'aumône. Les vrais pauvres en ce monde, ceux qui méritent l'aide et la compassion, sont uniquement ceux qui, par raison d'âge ou de maladie, se trouvent condamnés à ne pas pouvoir gagner eux-mêmes le pain nécessaire à leur subsistance. Tous les autres ont le devoir de travailler, et s'ils ne travaillent pas et souffrent de la faim, tant pis pour eux, s'ils sont paresseux. Entre-temps, passa sur la route un homme harassé et essoufflé, qui à lui seul traînait à grand-peine deux charrettes pleines de charbon. Pinocchio, jugeant à sa physionomie que ce devait être un brave homme, l'accosta et, baissant les yeux, tout honteux, lui dit à voix basse « Me ferez-vous la charité de me donner un sou, car je meurs de faim ?»«
Oh, pas seulement un sou, répondit le charbonnier, mais je t'en donnerai quatre, à la condition que tu m'aides à traîner mes deux charrettes de charbon jusque chez moi. » « Oh, grand bien vous fasse !» s'exclama Pinocchio presque offensé. « Sachez pour votre gouverne que je n'ai jamais traîné des charrettes. »«
Tant mieux pour toi, » répondit le charbonnier. « Alors, mon garçon, si tu meurs vraiment de faim, mange deux belles tranches de ton orgueil et tâche de ne pas en faire une indigestion. » Quelques minutes après, passa un maçon qui portait sur ses épaules sa hotte de chaux. « Feriez-vous, brave homme, la charité d'un sou ?» Un pauvre garçon qui meurt de faim, demanda Pinocchio.
Volontiers, viens avec moi. Aide-moi à porter cette chaux, et au lieu d'un sou, je t'en donnerai cinq.
Mais la chaux est lourde, répliqua Pinocchio, et je ne veux pas me fatiguer.
Si tu ne veux pas te fatiguer, mon garçon, continue à mourir de faim, et grand bien te fasse.
En moins d'une demi-heure passèrent au moins 20 personnes à qui Pinocchio demanda l'aumône et qui toutes lui répondirent « Tu n'as pas honte? Au lieu de faire le paresseux dans la rue, tu ferais mieux d'aller chercher un peu de travail et d'apprendre à gagner ton pain. » Enfin passa une jeune femme qui portait deux cruches d'eau. « Permettez-moi, bonne dame, de boire deux gorgées d'eau dans votre cruche. » demanda Pinocchio que dévorait la soif. Bois donc, mon garçon, dit la jeune femme en posant ses deux cruches à terre. Quand Pinocchio eut bu comme une éponge, il murmura à mi-voix en s'essuyant la bouche. J'ai bien calmé ma soif, mais hélas, j'ai toujours faim. La bonne dame, en entendant ces paroles, ajouta. Si tu m'aides à porter chez moi une de ces cruches d'eau, je te donnerai un bon morceau de pain. Pinocchio regarda la cruche et ne dit ni oui ni non. Avec ton pain, je te donnerai une assiette de chou-fleur assaisonnée à l'huile et au vinaigre, ajouta la jeune femme. Pinocchio jeta un nouveau regard vers la cruche et ne répondit ni oui ni non. Et après le chou-fleur, je te donnerai une dragée à la liqueur. Séduit par cette dernière promesse, Pinocchio ne sut plus résister. Il prit une grande résolution. « C'est bien, je porterai la cruche jusque chez vous. » La cruche était très lourde, et Pinocchio, n'ayant pas la force de la tenir avec les bras, se résigna à la porter sur sa tête. Quand ils furent arrivés à la maison, la bonne dame fit asseoir Pinocchio devant une table bien servie et posa devant lui le pain, le chou-fleur assaisonné et les confitures. Pinocchio ne mangea pas. Il dévora. Son estomac semblait n'avoir rien absorbé depuis 6 mois. Lorsqu'il eut à peu près calmé sa faim, il leva la tête pour remercier sa bienfaitrice. Mais il n'avait pas encore fini de la considérer qu'il proféra un très long
« Oh ! Oh !»
d'étonnement, et resta émerveillé, les yeux grands ouverts, la fourchette en l'air et la bouche pleine de pain et de chou-fleur. « Qu'est-ce qui vous étonne à ce point ?» dit en riant la bonne dame. « C'est, répondit Pinocchio en balbutiant, c'est que vous ressemblez, vous me rappelez.
« Oui, oui, vous avez aussi la même voix, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Oui, 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 vous avez aussi les mêmes cheveux qu'elle. Oh, ma petite fée, oh, ma bonne petite fée, dites-moi que c'est vous, que c'est bien vous. Ne me faites plus pleurer, j'ai tant pleuré, si vous saviez, tant pleuré. »
Et en parlant ainsi, Pinocchio éclata en sanglots et se prosterna devant la mystérieuse jeune femme en embrassant ses genoux. Chapitre 25. Pinocchio promet à la fée d'être sage et d'étudier. Il est las de faire le pantin et veut devenir un brave petit garçon. Tout d'abord, la jeune femme dit qu'elle n'était pas la fée aux cheveux bleus. Puis, se voyant découverte et ne voulant pas faire durer la comédie plus longtemps, elle se laissa reconnaître et dit à Pinocchio « Coquin de pantin, comment as-tu bien pu me découvrir ? C'est l'amour que j'ai pour vous qui me l'a révélé. Rappelle-toi bien, tu m'as laissé jeune fille et tu me retrouves dame. Oui, une dame qui pourrait être ta maman. Et j'en suis encore plus heureux, parce que de cette façon, au lieu de vous appeler ma grande sœur, je vous dirai maman. Depuis si longtemps que je me désole de ne pas avoir une maman comme les autres enfants. Mais comment avez-vous fait pour grandir aussi vite ?
C'est un secret, répondit la fée.
Enseignez-le-moi, je voudrais bien grandir un peu moi aussi. « Ne voyez-vous pas que je suis toujours resté pas plus haut qu'un fromage ?»«
Mais tu ne peux pas grandir, » répliqua la fée.
« Pourquoi donc ?»«
Parce que les pantins ne grandissent jamais. Qui naît pantin, vit pantin et meurt pantin. »
« Oh, je suis fatigué de faire toujours le pantin !» cria Pinocchio en se donnant une taloche à lui-même. « Il serait grand temps que je devienne un homme. »«
Et tu le deviendrais, » dit la fée, « si tu savais le mériter. »«
Vraiment ? Et que faut-il faire pour cela ?»«
Oh, une chose bien facile. Prendre l'habitude d'être un bon petit garçon. »«
Ne le suis-je pas par hasard ? » ?»«
Oh, bien loin de là, » dit la fée. Les bons petits garçons sont obéissants, tandis que moi, je n'obéis jamais. Les bons petits garçons prennent goût à l'étude et au travail, tandis que moi, je fais le vagabond et le paresseux toute l'année. Les bons petits garçons disent toujours la vérité, tandis que moi, je dis toujours des mensonges. Les bons petits garçons vont volontiers à l'école, Et moi, l'école me fait venir des douleurs par tout le corps. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer de vie. Tu me le promets?
Je vous le promets, je veux devenir un bon petit garçon. Je veux être la consolation de mon papa. Où peut-il bien être à cette heure, mon pauvre papa?
Je ne sais pas, dit la fée. Aurai-je jamais le bonheur de le revoir et de l'embrasser?
C'est possible, c'est même sûr.
À cette réponse, Pinocchio fut si heureux qu'il prit les mains de la fée et les baisa avec tant d'ardeur qu'il semblait transporté. Puis, levant la tête et la regardant tendrement, il lui demanda
« Dis-moi, maman, tu n'étais donc pas morte ?»«
Tu vois bien que non, » répondit la fée en souriant.
« Si tu savais quelle douleur et quelle angoisse j'ai ressentie en lisant, si j'y... »«
Je le sais. C'est pour cela que je t'ai pardonné. La sincérité de ta douleur m'a montré que tu avais bon cœur. Quand les enfants ont bon cœur, même s'ils sont un peu méchants et s'ils ont l'habitude du mal, il reste toujours un peu d'espoir. On peut s'attendre à ce qu'ils rentrent dans la bonne voie. Voilà pourquoi je suis venu te chercher jusqu'ici. Je serai ta maman. »
Oh, quel bonheur ! Cria Pinocchio en sautant de joie.
Tu m'obéiras et tu feras toujours ce que je te dirai.
Certainement, certainement, dit Pinocchio.
À partir de demain, ajouta la fée, tu iras à l'école. Pinocchio devint sur le champ un peu moins joyeux. Puis, tu choisiras un métier.
Pinocchio devint songeur. Que murmures-tu entre tes dents ? Demanda la fée avec un accent de reproche.
Je disais, marmotta Pinocchio à mi-voix, qu'il est, me semble-t-il, un peu tard maintenant pour que j'aille à l'école.
Non, monsieur. Rappelle-toi qu'il n'est jamais trop tard pour s'instruire et travailler.
Mais je ne veux pas apprendre de métier.
Et pourquoi?
Parce que je me fatiguerais à travailler.
Mon enfant, dit la fée, ceux qui parlent ainsi finissent presque toujours à l'hôpital ou en prison. L'homme, qu'il soit riche ou pauvre, est toujours obligé de faire quelque chose, de s'occuper, de travailler. Malheur à ceux qui se laissent prendre par la paresse. La paresse est une vilaine maladie et il faut la soigner rapidement dès l'enfance. Car lorsqu'on est grand, on n'en guérit plus.
Ces paroles touchèrent l'âme de Pinocchio, qui, relevant vivement la tête, dit à la fée.
J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que tu me diras, parce que somme toute la vie de pantin m'ennuie et que je veux à tout prix devenir un bon enfant. Tu me l'as bien promis, n'est-ce pas?
Je te l'ai promis, répondit la fée. Cela ne dépend que de toi.
Chapitre 26. Pinocchio va avec ses camarades d'école au bord de la mer pour voir le terrible requin. Le lendemain, Pinocchio alla à l'école communale. Représentez-vous l'étonnement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe un pantin.
Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir.
Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arrachait son chapeau des mains. L'autre le tira en arrière par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. D'abord, Pinocchio s'en tira à force d'adresse. Puis, sentant à la longue la patience lui manquer, Il se retourna vers ceux qui l'agaçaient et se moquaient de lui et leur dit fort en colère : Gare à vous ! Je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et je veux être respecté. Bravo ! Tu parles comme un livre ! Crièrent les petits fripons parmi des fusées d'éclats de rire. L'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Mais il n'arriva pas assez tôt car Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied. Ouille ! Qu'il a le pied dur ! S'exclama l'écolier en frictionnant de la main sa blessure. Son coude est encore plus dur que son pied, dit un autre qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Bref, après coup de pied et coup de coude, Pinocchio eut vite acquis l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école. Tous lui firent des gentillesses et lui témoignèrent beaucoup d'affection. Le maître lui-même se louait de Pinocchio car il le voyait attentif, travailleur, studieux, intelligent. Le pantin arrivait toujours le premier à l'école et s'en allait le dernier. Son seul défaut était d'avoir trop de camarades, car parmi ceux-là, il y avait beaucoup de méchants garçons dont on connaissait la mauvaise volonté et la paresse. Tous les jours, le maître l'avertissait de ce danger, et la bonne fée ne manquait pas elle-même de lui répéter sans cesse « Fais attention, Pinocchio, tes camarades d'école finiront tôt ou tard par te faire perdre l'amour du travail, et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. »«
Oh, il n'y a pas de danger !» répondit le pantin en haussant les épaules et en se frappant le front avec l'index, comme pour dire « Il y a dans ma tête beaucoup trop de jugement pour que ça m'arrive. »
Or, il arriva qu'un beau jour, en allant à l'école, Pinocchio rencontra un certain nombre de ses compagnons habituels qui venaient au-devant lui. Il lui dit « Sais-tu la grande nouvelle ?»«
Non. »
« On a vu sur le rivage un requin gros comme une montagne. »«
Vraiment ?»
C'est peut-être celui qui a avalé mon pauvre papa. Nous allons sur la plage pour le voir. Veux-tu venir avec nous ?
Non, je veux aller à l'école.
À l'école ? Mais nous irons demain, dirent les garçons. Qu'importe une leçon de plus ou de moins, nous serons toujours les mêmes ânes.
Mais que dira le maître ? Dit Pinocchio.
Le maître, faut le laisser dire. Il est payé pour gronder toujours.
Et ma mère ?
Oh, les mamans, elles ne savent jamais ce que nous faisons.
Eh bien, dit Pinocchio, voici ce que je vais faire. Pour certaines raisons qui me sont personnelles, j'irai voir le requin. Mais je n'irai le voir qu'après l'école.
Pauvre niais, répartit l'un des compères. « Crois-tu qu'un poisson de cette taille va en faire à ta guise ? Dès qu'il s'ennuiera, il prendra une autre direction, et alors, on ne le verra plus, tu arriveras trop tard. »«
Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la mer ? » demanda le pantin.
« Oh, dans une heure, nous serons certainement de retour. »«
Eh bien, j'y vais, à qui courra le plus vite ?»
cria Pinocchio en s'élançant. Le signal du départ ainsi donné, la troupe des gamins, leurs livres et leurs cahiers sous le bras, se mit à galoper à travers champs, le pantin en tête. Pinocchio paraissait avoir des ailes. De temps en temps, il se retournait en arrière et raillait ses compagnons. Allez voir, haletant, essoufflé, couvert de poussière, la langue pendante, il riait de bon cœur. Le malheureux ne se doutait pas à ce moment même vers quels horribles malheurs il courait. Chapitre 27 Grand combat de Pinocchio avec ses compagnons. L'un d'eux ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Lorsqu'il fut arrivé sur le rivage, Pinocchio jeta immédiatement un vaste regard sur la mer, mais il ne vit pas de requin. La mer était lisse comme un miroir, pas une vague. Mais où est le requin ? Demanda-t-il en se retournant vers ses compagnons.
Oh !
Il sera allé déjeuner, répondit en riant l'un d'entre eux.
Il se sera mis sur le lit pour faire un petit somme, dit un autre en riant plus fort encore.
À ces réponses invraisemblables et à ces rires, Pinocchio comprit que ses compagnons lui avaient fait une mauvaise plaisanterie en lui annonçant une chose qui n'était pas vraie. Se fâchant, il leur dit d'un ton très dur :
Eh bien, quel plaisir avez-vous trouvé à me raconter l'histoire du requin ?
Eh bien, nous avons certainement trouvé un grand plaisir, dirent en chœur les mauvais drôles.
Et lequel ?
Celui de te faire manquer l'école et de t'emmener avec nous. Tu n'as pas honte de te montrer tous les jours exact et attentif aux leçons ? Tu n'as pas honte de travailler comme tu fais ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire que je travaille ?
Ça nous fait beaucoup, puisque tu nous obliges ainsi à faire mauvaise figure devant le maître.
Pourquoi ?
Parce que les écoliers qui étudient font ressortir l'infériorité de ceux qui, comme nous, n'ont pas l'amour du travail. Et nous, nous ne voulons pas être inférieurs. Nous aussi, nous avons notre amour propre.
Mais, dit Pinocchio, que dois-je faire pour que vous soyez content ?
Tu dois, toi aussi, prendre en grippe, détester l'école, les leçons et le maître, qui sont nos trois grands ennemis.
Et si je voulais continuer à travailler ?
Nous ne te regarderions plus en face. Et à la première occasion, tu nous le paierais.
Oh ! Vous me faites rire en vérité, dit le pantin en hochant la tête.
Hé, Pinocchio, lui dit le plus grand des garçons en se plantant en face de lui. Il ne faut pas venir ici faire le malin, le fanfaron. Si tu n'as pas peur de nous, nous non plus, nous n'avons pas peur de toi. Songe que tu es seul et que nous sommes sept.
Ha ha ! Sept comme les péchés mortels, dit Pinocchio en éclatant de rire.
Vous avez entendu, dit le garçon. Il nous a tous insultés, il nous a appelés péchés mortels.
Pinocchio, fais-nous des excuses, sinon malheur à toi.
Coucou !
Fit le pantin en se frappant du doigt la pointe du nez en signe de moquerie.
Pinocchio, ça finira mal.
Coucou !
Nous te rosserons comme un âne.
Coucou, coucou !
Tu rentreras chez toi avec le nez cassé.
Coucou, coucou, coucou !
Attends un peu, le coucou c'est moi qui vais te le donner, s'écria le plus audacieux des drôles. En attendant, prends toujours cet à-compte et garde-le pour ton souper.
Se disant, il appliqua un coup de poing sur la tête de Pinocchio, qui, comme on le pense bien, riposta sur le champ par un autre coup de poing. À partir de ce moment, le combat devint général et acharné. Pinocchio, bien qu'il fût seul, se défendait comme un héros. Avec ses pieds de bois très durs, il travaillait assez habilement pour tenir toujours ses ennemis à distance. Partout où ses pieds pouvaient atteindre, il laissait une meurtrissure. Alors les enfants, furieux de ne pas pouvoir se mesurer avec le pantin, eurent l'idée de lui lancer des projectiles. Ils se mirent à lui jeter leurs livres d'école, leurs alphabets, leur grammaire, leurs histoires, leur géographie et tous les autres livres. Pinocchio, qui avait l'œil clair et malicieux, savait se garer à temps, si bien que les volumes, en passant au-dessus de sa tête, s'en allaient tous tomber dans la mer. Ce fut une grande joie pour les poissons, qui, croyant que ces livres étaient bons à manger, accouraient en hâte vers la rive. Mais après avoir avalé quelques feuillets, ils les recrachaient bien vite, en faisant avec leur bouche une certaine grimace qui voulait dire « Ah, c'est pas bon pour nous, nous sommes habitués à manger beaucoup mieux. » Le combat était devenu de plus en plus féroce lorsqu'un énorme crabe qui était sorti de l'eau et s'approchait en rampant sur le sable leur cria avec une voix de trombone enrhumée :
Arrêtez, méchants, vilains enfants que vous êtes ! Jeu de main, jeu de vilain ! Ces jeux de main entre enfants ne finissent jamais bien. Il y arrive toujours quelques malheurs.
Pauvre crabe, il prêchait au vent. Ce coquin de Pinocchio lui-même lui dit grossièrement en le regardant d'un mauvais œil :
Tais-toi, sale crabe ! Tu ferais mieux de sucer des pastilles de Vichy pour guérir ton mal de gorge. Va plutôt te mettre au lit et tâche de transpirer.
Entre-temps, les enfants qui avaient fini de jeter leurs livres virent tout près de là le tas des livres du pantin et les prirent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Parmi ces livres, il y avait un volume relié en gros carton avec le dos et les coins en parchemin. C'était un traité d'arithmétique, de calcul. Vous pouvez bien croire qu'ils le prirent comme les autres. L'un des enfants saisit le volume, prit comme point de mire la tête de Pinocchio et lança le livre de toutes ses forces. Mais au lieu d'atteindre la tête du pantin, c'est un de ses camarades qui reçut le coup et qui, pâlissant aussitôt, ne put que dire ces quelques paroles.
« Ah, maman, maman, viens à mon secours, car je meurs. »
Puis il tomba tout son long sur le sable du rivage. À la vue de ce moribond, de ce mourant, les enfants épouvantés s'enfuirent à toutes jambes. Quelques minutes après, on ne les voyait plus. Mais Pinocchio resta là, et de douleur aussi bien que d'épouvante, il était lui aussi plus mort que vif. Néanmoins, il courut mouiller son mouchoir dans l'eau de mer et se mit à baigner les tempes de son camarade. Il pleurait à chaudes larmes et dans son désespoir, il l'appelait par son nom et lui disait
« Eugène, mon pauvre Eugène, ouvre les yeux et regarde-moi. Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Ce n'est pas moi, tu sais, qui t'ai fait tant de mal. Crois-le bien, ce n'est pas moi. Ouvre les yeux, Eugène. Si tu les tiens toujours fermés, tu me feras mourir moi aussi. Oh mon Dieu, comment faire maintenant pour retourner à la maison ? Comment aurai-je le courage de me présenter devant ma bonne maman ? Que va-t-il m'arriver ? Où fuir ? Où me cacher ? Ah ! Il aurait mieux valu mille fois aller à l'école. Pourquoi ? Pour avoir écouté ses mauvais compagnons, me voici damné. Le maître me le disait bien, et maman aussi me l'avait répété. « Garde-toi des mauvais camarades. Mais je suis un têtu, un obstiné. Je laisse tout dire et je fais à ma tête. Après, il m'arrive de le payer. C'est ainsi que depuis que je suis au monde, je n'ai jamais eu un quart d'heure de bon. Mon Dieu, que va-t-il m'arriver ?» Fin de la première piste de la quatrième cassette. Page 177. Pinocchio de Carlo Collodi. Retourne la cassette. Il y aura la suite.